disciples particuliers. Ils sont là ensemble, et puis le Seigneur a quelque chose à vivre pour son Père, à l'égard des siens. Et il le vit là. Et par conséquent, dans le contexte directement, dans l'enseignement qui nous est apporté là, on ne trouve pas que ce soit essentiellement un frère qui aille vers un autre, ou une sœur, ou inversement, mais on trouve que, à un moment donné, l'un a quelque chose de la part du Père, mais qui résulte de cette communion qui est mentionnée justement au chapitre 8 et à la fin du chapitre 12. Et puis, le Seigneur le vit. Et alors, quand on a le premier paragraphe, et qu'on trouve ensuite, à la fin du verset 14, « Si moi, le Seigneur est maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Le contexte est clair, ça n'est pas nécessairement l'un avec un, mais nous nous trouvons ensemble, l'un a quelque chose à dire, là, de la part du Seigneur, comme le Seigneur l'a fait de la part de son Père, et puis il le vit, et puis il y a là un enseignement qui est apporté, il y a quelque chose qui est produit, et ceux qui sont là en profitent. Et par conséquent, ça n'est pas cette grosse difficulté de l'un qui va vers l'autre avec une intention déterminée, mais précisément quelque chose qui est communiqué, là, sans orientation déterminée, puisque là se trouvent plusieurs. Mais ça n'exclut pas, et nous l'avons vécu, qu'à l'occasion de visites se ressente ce travail, précisément l'un dit une chose, l'autre dit une chose, et chacun prend pour lui-même de la part du Seigneur à travers ce que l'autre exprime.
Frère, monsieur Allauvent a parlé de notre problème de nous humilier, de réaliser ce qu'est vraiment l'humilité. Et nous sommes tous certainement bien d'accord sur ce plan, chacun personnellement. Et c'était vraiment le problème des disciples ce soir-là. Cette nuit-là, dans cette pièce, au moment de ce repas, juste après l'institution de la scène, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disputent entre eux pour savoir quel serait le plus grand. Et le Seigneur s'adresse à des gens comme cela. Et il s'adresse à nous de la même manière, parce que nous avons le même problème. Et ici, dans notre passage, nous avons au verset 20, « Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Quelqu'un vient de la part du Seigneur, je le reçois comme si c'était le Seigneur. Et il y a d'autres passages dans l'Évangile selon Luc qui sont parallèles à celui-là. C'est dans Luc au chapitre 9. Verset 46. Le Seigneur vient de leur parler du fait qu'il va être livré entre les mains des hommes. Verset 46. Il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui et leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jésus voyant la pensée de leur cœur. Il prend un petit enfant. Je ne sais pas si vous voulez inviter quelqu'un chez vous, vous serez peut-être plus honoré de recevoir quelqu'un de célèbre que quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui a réussi dans la vie, qu'un petit enfant, peut-être bien gentil, mais qui ne représente que lui-même. Et au temps des apôtres, au temps du Seigneur, les enfants n'étaient pas considérés, peut-être comme maintenant dans notre civilisation. Le Seigneur prend ce petit enfant, les met là au milieu de tous, et les disciples voient cet enfant et disent, quiconque reçoit cet enfant là, quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit. Et l'important, ce n'est pas celui qui est reçu, ni celui qui est envoyé, mais c'est celui qui envoie et celui de qui on reçoit. Celui qui est important, c'est le Seigneur. Et celui qui est important, c'est le Seigneur qu'envoie. Et celui qui est important, c'est le Seigneur dont on reçoit par celui qui l'envoie. Mais vraiment, nous avons vraiment à demander de l'aide au Seigneur, à crier au Seigneur pour qu'il nous aide les uns et les autres. De vraiment réaliser ce que c'est que cette vraie humilité. Cette humilité qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens quand il s'agit de réaliser de marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés avec toute humilité, douceur, longanimité. Cette humilité dont on parle tant et que l'on oublie si souvent. Que le Seigneur nous aide à marcher sur ces traces vraiment.
Il y a peut-être un point très concret. C'est le fait que le Seigneur, dans l'exemple qu'il nous a donné, n'a pas lavé d'emblée les pieds de ses disciples. Il y a un certain nombre d'actes de gestes qui correspondaient à une attitude. Il a mis de côté ses vêtements et il a aussi versé de l'eau dans le bassin. Donc quand nous désirons accomplir un tel service que le Seigneur nous a confié, verser de l'eau dans le bassin, c'est bien venir avec la parole de Dieu comme une provision pour ceux qui sont là, pour tous les deux, dans un sens. Et puis, d'autre part, savoir écouter l'autre. Est-ce que nous venons pour appliquer la parole avec un plan déjà établi, ou est-ce que nous le laisserons porter par l'Esprit Saint? Et est-ce que d'abord nous serons écoutés, ce qui est un préalable indispensable, nous le comprenons bien, avant de parler de la part du Seigneur.
Et 20. Il y a quand même une indication tout à fait claire. Est-ce qu'on voit véritablement dans l'envoyé celui qui va chez l'autre? J'avoue que, personnellement, je vois dans l'envoyé celui qui, à un moment donné, dit quelque chose de la part du Seigneur. Si l'autre le prend du Seigneur, il reçoit celui que le Seigneur envoie pour dire quelque chose de sa part. Ça n'est pas nécessairement celui qui vient, ça peut être celui qui reçoit. On reçoit quelque chose qui est dit de la part du Seigneur. Et là, le Seigneur est reçu, et celui qui l'envoie en même temps. Celui qui l'a envoyé. Ici, nous avons le Seigneur, nous avons le Père, et nous avons celui qui est reçu comme de la part du Seigneur, parce qu'il dit quelque chose de sa part, effectivement, conduit par l'Esprit.
Thank you. Avant de passer au passage suivant, verset 21, je voulais encore souligner une chose de façon extrêmement pratique, d'une grande importance. Nous sommes peut-être appelés à aller voir un frère. Nous sommes appelés certainement à recevoir un frère qui viendra pour nous dire quelque chose de la part du Seigneur ou pour nous ouvrir son cœur. Dans tous les cas, et cela est d'une grande importance, nous devons être discrets. Nous devons être de véritables tombeaux si quelqu'un nous confie un secret. C'est la seule façon d'exercer un service utile de la part du Maître. Et je voudrais répéter ce que notre frère Marc Allevon a dit tout à l'heure. Plutôt que d'en parler aux autres, parlons-en d'abord au Seigneur et parlons-en aux intéressés. Nous savons très bien que c'est le siècle de la communication. Le fax, le téléphone, les PET, les organes de communication maintenant risquent de faire un désastre dans les assemblées. Tout se sait instantanément et plus ça se propage, plus ça se déforme. Je pense qu'il est temps de s'arrêter. Et en particulier lorsqu'il y a des difficultés, il faut en parler aux intéressés et surtout ne pas faire de procès d'intention à ses frères. Avoir mal entendu quelque chose et interpréter les pensées profondes et les motifs de ses frères est quelque chose que le chrétien ne peut pas et ne doit pas faire. Tant de choses qui pourraient être des racines d'amertume qui souillent les saints, les familles, les assemblées, pourraient être guéries sans arriver même au jour si on faisait exactement ce que la parole nous enseigne de faire. Ne serait-ce que pour une difficulté entre frères, regardez comment Matthieu 18:18 est clair comme de l'eau de roche, c'est du cristal. Vous allez d'abord voir votre frère entre toi et lui seul. Deux ou trois témoins si la première démarche n'a pas suivi et en parler à l'assemblée seulement après. Eh bien, je pense que nous serons tous d'accord de dire que trop souvent, nous avons inversé l'ordre des facteurs. Pourquoi ? Parce que, il faut quand même bien le dire, les choses sont des friandises pour le cœur naturel. Et rapporteur divise les intimes amis. Ça n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et pour éviter justement de laisser l'ennemi faire des ravages dans les assemblées, eh bien, suivant l'instruction de l'Écriture, en particulier celle-là, de commencer par aller voir le frère, auprès de qui le Seigneur vous invite à apporter quelque chose, c'est-à-dire Christ lui-même. Alors au verset 21, le Seigneur est troublé dans son esprit, il a été troublé dans son âme, nous l'avons dit tout à l'heure au chapitre 12. Il est troublé par le fait qu'au milieu de ce repas, dans l'un des 12 qui était avec lui à table, il y avait celui qui avait levé son talon contre lui. C'est la réalisation du psaume 41, verset 9. L'effet que la parole du Seigneur produit sur les disciples est extraordinaire. Les disciples n'ont pas de confiance en eux-mêmes. Ils sont émus de penser que l'un d'entre eux, qu'ils ne connaissaient pas encore, serait capable, mais il l'avait déjà fait, de vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Alors là, naturellement, Pierre, bouillant comme à l'ordinaire, n'ose pas s'avancer et poser la vraie question qui était sur le cœur de tous les autres. Et il fait poser la question à qui ? À Jean. 5 fois dans cet évangile, c'est non pas le disciple qui aimait Jésus, le disciple que Jésus aimait. Je crois que c'est la première fois ici qu'il se nomme ainsi. Le disciple que Jésus aimait. Comment le manifestait-il ? Non pas par de grandes manifestations extérieures, par le fait même qu'il était près du cœur de Christ. Et puisqu'il avait cette position de proximité, il était naturellement, spirituellement préparé pour poser la question et recevoir la communication de la pensée du Seigneur Jésus. C'est une grande leçon pour nous. Nous ne nous approchons pas de Christ, nous ne restons pas dans sa communion justement pour avoir le secret de ses pensées, mais pour être auprès de lui, pour qu'il soit lui l'objet de nos cœurs et de nos affections. Et alors, lorsque nous lui aurons montré qu'il nous est cher, alors là, nous avons des cœurs capables de recevoir ses secrets. Regardez comment Abraham, en Genèse 18, c'est bien le même ordre des facteurs. C'est parce qu'Abraham était prêt à enseigner ses fils, c'est parce qu'Abraham avait manifesté que les pensées de Dieu avaient du cœur pour lui, que Dieu dit, mais comment cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Alors Colossiens 1 nous dit que la connaissance de la pensée de Christ, la connaissance de ses secrets, eh bien c'est justement dans cette communion avec lui que nous pouvons l'acquérir.
est aussi c'est très encourageant de voir Jean. Peut-être que quelqu'un dira que c'était quelqu'un d'âgé qui avait de l'expérience. Pas vrai, c'était un jeune homme. Entre 20 et 30 ans peut-être. C'était quelqu'un qui était doux. On l'a appelé l'apôtre de l'amour. Oui. Mais avant d'être appelé l'apôtre de l'amour, il était appelé fils du tonnerre. Il avait besoin d'apprendre des choses. C'était quelqu'un qui savait être près du Seigneur. Et pourtant un jour, le Seigneur lui a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Quand il avait demandé que le feu du ciel descende sur les villages des Samaritains qui avaient refusé, enfin qu'il n'avait pas demandé, il avait dit au Seigneur, « Veux-tu que nous demandions ?» Il était soumis quand même. Et puis prétentieux. Comment demander que le feu du ciel descende de la terre, du ciel sur la terre, lui comme Élie, comme on va faire ça? Prétentieux, fils du tonnerre, ne connaissant pas la pensée du Seigneur, puisque le Seigneur lui dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mais Jean a appris. Et Jean a appris à connaître qui? À connaître son Seigneur, à connaître l'amour du Seigneur, à connaître. En connaissant l'amour du Seigneur, alors, il va prendre cette place près de lui. Celui qui va pouvoir, dans ce passage, communiquer aux autres les communications du Seigneur. Dans cette intimité. Il pourra, comme on l'a déjà dit, je crois, mais il pourra être près de la croix du Seigneur, montrant son attachement. Il pourra courir vers le tombeau, montrant son empressement. Il pourra reconnaître le Seigneur. Au petit matin, quand ils seront à la fin de la pêche miraculeuse, il dira « C'est le Seigneur » à Pierre. Il aidera Pierre pour cela, montrant sa clairvoyance. Et il pourra aussi être celui qui va suivre, dont le Seigneur dira « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi », montrant là sa fidélité. Mais quel chemin! Quel chemin que celui de Jean! Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous encourage? Peut-être que nous sommes là, les uns et les autres, en nous disant « Nous ne sommes vraiment pas à la hauteur. » Eh bien, tant mieux. Si nous pensions que nous étions à la hauteur, eh bien, nous serions prêts de tomber. Mais si nous pensons que nous ne sommes pas du tout à la hauteur, alors approchons-nous du Seigneur et il nous instruira.
Remarquez qu'il n'y a pas de discussion entre les disciples. Ne parle pas entre eux pour essayer de tirer une conclusion, pour essayer de savoir. Il y a d'abord une question qui part de chacun, qu'on trouve dans le chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. Le tour se fait. Notre frère Gibert, parlant de ce passage, disait un jour, imaginez cette scène. Le Seigneur, avec ses disciples, puis comme on le trouve en Matthieu 26, 22, chaque disciple disant, « Seigneur, est-ce moi ?» Nous trouvons ici qu'ils se regardent, étant en perplexité, ils ont perdu toute leur assurance, plus de confiance. Le Seigneur le dit, c'est vrai. Et finalement, ça n'est pas forcément un autre. C'est peut-être moi. Lui le sait. Et moi, je ne sais pas. Mais celui qui est près du Seigneur, qui vit dans son intimité, ne cherche aucune discussion, non plus aucun raisonnement. Il se penche vers le Seigneur et lui dit simplement, « Seigneur, lequel est-ce ?» Pas une question, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est essentiel ce qu'a rapporté tout à l'heure notre frère Jean Muller. Pas de discussion les uns avec les autres pour faire une analyse d'homme. Des choses pures, profondément ressenties, devant le Seigneur. Et dans les questions délicates, Seigneur, lequel est-ce ? S'adresser au Seigneur, attendre de lui la réponse et rester là. Humble, en attendant véritablement de lui.
Une pensée sur Judas. C'est un homme dont il est dit qu'il aurait mieux voulu, c'est le Seigneur qui le dit, qu'il ne soit pas né, et qu'il est le fils de perdition. À ma connaissance, à part lui-même, il n'est question que des deux bêtes d'Apocalypse, chef de l'Empire romain et l'Antichrist, qui seront, eux, jetés vivants dans les temps de feu, embrasés par le soufre, la seconde mort. Donc, c'est des êtres qui ont rejeté toute grâce et qui sont éternellement perdus. Judas, il était bon pour lui qu'il ne soit pas né. Et pourtant, il avait été choisi par le Seigneur. L'évangile de Luc, il avait passé sa nuit en prière, il en choisit les 12. Il choisit les 12, lui était là. Il a exercé un service pour Christ, chassé des démons, accompli des miracles. Mais tout n'était que ténèbres dans son âme. Il n'a jamais été touché par la grâce. Et ça, c'est d'une extrême importance. Même dans la vie chrétienne, ne pas nous laisser endurcir par la proximité des choses de Dieu. Alors là, il s'agit du salut refusé. Le cœur de Judas ne s'est jamais ouvert à la grâce de Christ. Il était spectateur extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il était dévoré par l'amour de l'argent. Beaucoup plus, c'était un voleur. En fait, il n'a jamais pu comprendre qu'on ait dépensé 300 deniers pour acheter le parfum. Et il n'avait pas plus de connaissance de l'amour que Satan n'en a. Satan est complètement étranger à l'amour de Dieu. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne peut pas le comprendre. Judas était dans cet état-là. Il était complètement éloigné, pourtant, d'une proximité extérieure extrême. Alors, d'une manière pratique, même ceux qui ont la vie de Dieu peuvent être entraînés par l'amour de l'argent, l'amour des richesses. Ce n'est pas la mesure des richesses qui est importante en soi-même. Des femmes de qualité ont servi et suivi le Seigneur Jésus, ont mis à la disposition de leur maître tous leurs biens. À Thessalonique aussi, des femmes probablement d'un niveau social élevé avaient été ajoutées à l'Assemblée. Et ceux qui ont des richesses doivent en faire profiter le Seigneur Jésus, les mettre à la disposition du maître qu'il leur a confié et les gérer pour sa gloire. C'est l'amour des richesses. Et quelqu'un a dit à Dillenburg il y a quelques années, il n'y a pas d'exception. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans le piège du diable et perdront leur course. Il ne s'agit pas non seulement ici, il ne s'agit plus du salut de l'âme, il s'agit de la course chrétienne. C'est là qu'il faut être d'une extrême importance. Il faut reconnaître que le système capitaliste dans lequel vit l'Europe occidentale est fondé sur un certain nombre de valeurs qui sont fausses, et en particulier la valeur de l'argent. C'est quand même clair. Le pouvoir, l'argent et l'inconduite, c'est les trois choses qui dominent le monde actuel. Et l'argent est une chose d'un extrême danger. Il faut être pratiquement pauvre ou nous deviendrons pratiquement mondains. A écrit M. Darby dans quelque chose. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Alors à l'extrême, évidemment, Judas est tombé par cet amour de l'argent parce qu'il était voleur. Mais il s'est endurci au contact de la grâce et de la présence même de Christ. C'est une chose terrible. On peut bien penser qu'il avait pensé qu'en vendant le Seigneur pour ses 30 pièces d'argent, il va le faire. Il va mettre son marché à exécution au chapitre 19, en vendant le Seigneur, en le désignant dans le jardin, lorsque les hommes sont venus pour le prendre. Il avait pensé qu'il sortirait, sans même faire appel à 12 légions d'anges. Judas certainement connaissait quelque chose de la puissance de Christ qu'il avait en lui-même. Il l'avait vu s'échapper plusieurs fois, et là il a été pris. Que lui reste-t-il ? Le désespoir, le remords sans repentance, la tristesse qui est selon le monde qui opère la mort. Auparavant, avant d'en arriver là, avant d'arriver à sauter sa propre vie, Satan entre en lui. Quelle terrible chose. Il sort, il était nuit. Il sort dans la nuit de ce monde. Il semble bien qu'à partir de ce moment-là, l'atmosphère était tant soit peu dégagée dans cette petite compagnie du Seigneur avec les 11 qui sont restés. C'est un fardeau. Pour le cœur de Christ, d'abord. C'est lui-même qui allait être livré dans les heures qui allaient suivre. Et puis quand même la présence de Judas était un fardeau pour lui-même, pour Christ et pour les autres. C'est à cause de lui que son esprit avait été étreint, troublé en esprit, verset 21. Alors maintenant, il va ouvrir son cœur et déclarer ce que Dieu allait faire pour son fils bien-aimé. Quel moment, chers frères et sœurs. C'est extraordinaire. Maintenant, lorsqu'il est sorti, maintenant, non pas à venir, incontinent, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Alors le texte grec est aussi clair que possible. Il n'est que question que de Christ ici. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui, en Christ. Si Dieu est glorifié en Christ, Dieu aussi glorifiera Christ en Christ. Et incontinent, il le glorifiera. Il glorifiera Christ. Alors ce passage est évidemment rapproché à celui que nous avons au verset 23 du chapitre précédent, 12-23. L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est la troisième des gloires reconnues par Christ, à Christ par le Père lui-même, avant la croix, je les ai rappelés ce matin. Fils de Dieu, fils de David et roi d'Israël, fils de l'homme. Cette gloire du Fils de l'homme, elle sera reconnue par tous dans l'univers, dans le royaume millénaire. Mais la croix de Christ met déjà en évidence d'une manière extraordinaire, merveilleuse, sans limite, la gloire de Christ comme Fils de l'homme. Incontinent aussi, il le glorifiera. Dieu lui a donné la gloire. Quel moment ! Dans la honte a brillé ta gloire sur la croix. À toi, Jésus, fut la victoire sur la croix.
Maintenant, c'est donc le maintenant de la croix. Sur la croix, le Fils de l'homme est glorifié. Et s'il sera glorifié plus tard, en effet, dans ce monde où il va régner, là, il est question de sa gloire morale, de sa gloire personnelle. Et, en effet, quelle gloire a brillé en celui qui était là sur la croix comme le Fils de l'homme, dans toute sa perfection morale, dans toute sa beauté, glorifiant le Père et manifestant tout ce qui était en lui. À ce moment-là, dans le moment même où il était là sur la croix, crucifié entre deux malfaiteurs.
C'est la gloire de Dieu qui est en question quand le péché entre dans la création. Ce mal mystérieux qui, dont la parole est excessivement sobre, qui nous révèle cette présence du péché qui a conséquence de la désobéissance de l'homme, Dieu révélant ce qu'il est en lumière, jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Mais comment concilier ce qui est en Dieu, amour, lumière, justice, sainteté, vérité, sont l'œuvre de la croix. C'est là où Dieu, dans tout ce qu'il est, dans ses caractères ineffables, sa majesté, sa souveraineté, c'est là où tout ce qu'est Dieu a été magnifié par l'œuvre de Christ. Lui seul pouvait entreprendre une telle chose. Ce n'était pas un miracle, quel qu'il soit, ni mille créations qui pouvaient établir ou revendiquer la gloire de Dieu. Ce ne pouvait être que les souffrances, la mort, la croix de Christ.
Ce maintenant du verset 31, notre frère l'a dit tout de suite, c'était donc le moment de la croix. Et c'est le même maintenant qu'on retrouve dans la prière du Seigneur, au chapitre 17, au verset 5. Maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De sorte que, à la croix de Christ, Dieu glorifie son Fils de sa gloire de Fils éternel. Glorifie-moi, toi, Père, de cette gloire que j'avais auprès de toi. Non pas qu'il l'ait perdue, non pas qu'il l'ait quittée, mais elle est manifestée dans toute sa splendeur infinie. À cette gloire s'ajoute maintenant une gloire donnée du Père à Christ comme Fils de l'homme. Alors faisons attention de ne pas nous laisser entraîner par notre esprit français cartésien de classer les choses et de les mesurer à la mesure de l'homme. Le fait que Christ reçoive la gloire de Dieu comme Fils de l'homme ne laisse pas supposer que sa gloire n'était pas pleine auparavant. dans les mesures humaines, si on peut ajouter quelque chose à un récipient, c'est que le récipient n'était pas plein auparavant. Dans les choses divines, on est tout à fait à l'inverse. La gloire de Christ est pleine et entière, en toute plénitude de toute éternité. À cette gloire se superpose quelque chose d'infini que Christ acquiert par l'œuvre de la croix. Psaume 2, nous passons au psaume 8. Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. Et puis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui ? Il me semble qu'il y a dans ce passage de Jean 13, dans cette gloire de fils de l'homme, quelque chose qui n'appartient encore qu'à Christ exclusivement. Bien que, je pense que les frères sont d'accord, alors que cette gloire de Christ comme fils de Dieu n'est qu'à lui et nous la contemplons dans la gloire. C'est Jean 17, 24, Père, je veux. C'est le désir profond du cœur du Seigneur que nous soyons dans le ciel, dans la maison du Père, la demeure des enfants, pour contempler la gloire de Christ comme fils de Dieu. Et la gloire que tu m'as donnée, la gloire du fils de l'homme, moi je la leur ai donnée. Mais remarquons-nous toujours qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à Christ, et de toute manière, Christ est premier-né. Il a une place en dehors et au-dessus de tous les autres, bien qu'il n'ait pas honte de nous appeler ses frères.
Gloire que Dieu donne à son Fils fait, si on peut s'exprimer ainsi, ressortir, rehausse la gloire même de Dieu. Dieu est glorifié en lui. En Philippiens 2, après ce verset qui nous parle si éloquemment sur l'abaissement, il sait pourquoi il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se soit tout genou des êtres terrestres, célestes et infernaux, et que toute langue confesse qu'il a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a là effectivement comme l'infini qui nous laisse, on voudrait dire, sans parole, mais chacune de ces gloires faisant ressortir l'autre, l'une s'ajoute à l'autre.
Fier, glorifier, dès lors, il glorifie l'homme parfait. Dans le cantique 211, la fin du verset 2. Dieu est glorifié en Christ et par Christ, alors il glorifie son Fils. Glorifie-moi, toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi. Et glorifie le Fils comme Fils de l'homme.
Quelquefois que nous apercevons en même temps la gloire du Fils dans la profondeur de son abaissement. Et quand on a souligné ce matin que lorsque la parole de Dieu fréquemment rapproche les expressions où nous voyons l'humiliation du Seigneur et sa grandeur, il y a un exemple très caractéristique dans l'Ancien Testament, entre les chapitres 52 et 53 d'Ésaïe, on voit d'une part sa si profonde humiliation qui est décrite dans ces pages. Il n'a ni forme, ni éclat, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il y a d'autres expressions. Qu'est-ce qui précède ? Voici, mon serviteur agira sagement, il sera exalté, élevé, placé très haut.
Et sur le champ, il le glorifiera. Aussitôt, non pas dans l'avenir, non pas dans l'éternité future, si on ose s'exprimer ainsi, mais sur le champ, incontinent. Et dans l'épître de Pierre, au premier épître de Pierre, chapitre 1er, vous qui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, non pas lui donnera la gloire, mais lui a donné. Et non pas lui a donné toutes les gloires. Tout à l'heure, notre frère a montré qu'on a tendance à ajouter des choses, une gloire qu'on rajoute à une autre. mais c'est la gloire dans son absolu. Non pas quelque chose qui est immesurable et auquel il n'y a rien à ajouter, c'est Dieu qui lui a donné la gloire. Mais quelque chose de merveilleuse pour nous, aujourd'hui, de savoir cela et de réaliser que notre Seigneur, celui qui est allé jusqu'à la mort, celui qui s'est anéanti lui-même, est glorifié. Dieu lui a donné la gloire. Et cela remplit nos cœurs de joie et de reconnaissance et d'adoration.
Je pourrais seulement rappeler aussi une expression de notre frère Darby. Il y a une gloire dans la croix qu'il n'y a pas dans la gloire.
Une très grande importance pour nous croyants en temps présent que de réaliser que nous avons affaire à celui qui maintenant est glorifié dans le ciel. Nous sommes liés à un Christ glorifié. Nous attendons le moment où il va venir pour nous rendre et pour nous introduire dans la maison, alors que l'œuvre qui nous donne accès dans cette présence a été entièrement achevé, accompli. Et lui est glorifié dans le ciel même à la droite de Dieu. Et alors que nous marchons sur la terre maintenant, nous avons affaire à celui qui d'en haut s'occupe des siens qui sont encore sur la terre. Il est frappant de voir que l'apôtre Pierre m'a rappelé justement que déjà sur la terre, ils ont entendu ce témoignage qui lui a été rendu par la gloire magnifique, comme sujet d'encouragement pour ceux qui ont à marcher sur la terre, pour les pèlerins. Nous sommes, mais maintenant Christ a été glorifié. Et il a été donné à l'apôtre Paul aussi d'être introduit, être admis dans le troisième ciel où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer, après que lui-même avait déjà entendu cette voix qui s'adressait du haut du ciel, « Je suis Jésus ». La parole lui a été adressée par Jésus glorifié dans le ciel. « Mais je suis Jésus que tu persécutes ». Y a-t-il une preuve plus grande des liens que Christ a formés avec les siens et des soins qu'il en prend, de l'intérêt qu'il porte à ceux qui présentement sont encore sur la terre alors que lui est déjà glorifié dans le ciel.
Il y a là quelque chose de magnifique qui correspond à ce qui sera apprécié tout à l'heure auprès du Seigneur. Le passage de 2 Corinthiens 12 qui vient d'être rappelé établit déjà cette relation avec des choses qui ne sont pas exprimables maintenant, mais qui sont liées à une personne, à l'œuvre d'une personne, des choses qui dépassent tout ce qui est exprimable maintenant. Il y a ce que le Père lui-même avait dit relativement au Fils. Et Pierre lui-même le rapporte dans sa seconde épître au chapitre 1er, lorsqu'il dit au verset 17, « Il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et lorsque nous arrivons ici à l'expression du verset 31, « Maintenant », et puis aussi à la fin du verset 32, « Et incontinent, il le glorifiera », nous avons là comme le couronnement de quelque chose qui a eu toute sa manifestation, et les choses ne peuvent plus être contenues. Et voilà, brille, éclate et manifeste une gloire qui était là, mais qui a eu sa manifestation et qui brille dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Il y a en quelque sorte une manifestation, quelque chose de palpable, un sujet de langage. Et tout à l'heure, lorsque nous allons voir, lorsque nous allons comprendre combien nous avons été aimés, lorsque nous verrons celui qui en gloire porte l'empreinte des maux qu'il a endurés pour nous, il y aura un sujet, un langage d'expression, un ancrage pour dire quelque chose dans la contemplation d'une gloire qui est là comme le couronnement à la fin de quelque chose de complet que Dieu connaissait à l'avance en lui rendant déjà honneur et gloire avant que l'œuvre ait eu toute sa manifestation.
Dans ce chapitre, nous avons vu le Seigneur ou la gloire du Seigneur de plusieurs manières. N'est-il pas glorieux quand il se lève du souper, qu'il enlève ses vêtements, qu'il se ceint du linge et qu'il est au milieu des siens comme celui qui sert? N'est-il pas aussi glorieux quand il dit « Vous m'appelez maître et seigneur » et vous dites bien « car je le suis ». Il est le Seigneur, il est le maître. N'est-il pas glorieux quand, par souci pour ses disciples, qui allaient être complètement désemparés par la trahison de Judas, il les avertit et leur dit au verset 19, « Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez que c'est moi. » C'est moi, c'est le « je suis ». Le « je suis » d'Exode, c'est moi, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et alors, n'est-il pas glorieux quand il se présente, comme on vient de le voir, comme le Fils de l'homme? Celui qui est parfait dans sa personne. Ce point, comment nous parle-t-il? Au verset 33, « enfant ». Et ce mot, plein d'affection, est un diminutif, « mes petits-enfants que j'aime ». Il parle comme ça à ses disciples. Il nous parle comme cela aujourd'hui, dans cette relation. C'est ce même mot qu'on retrouvera dans la première épître de Jean. Et dans ce terme, il nous introduit dans une relation d'intimité, disant, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Bien sûr, il allait aller vers la croix, mais nous ne pouvons pas aller là. Ce n'est pas un chemin que nous pouvons suivre. Mais par contre, il y a une chose que nous pouvons comprendre, c'est son amour qui l'a amené jusqu'à la croix. Et c'est en réalisant un peu cet amour, alors qu'après, il pourra nous parler de nous aimer l'un l'autre.
La fin du psaume 16, dont notre frère a cité quelque chose à la fin de la réunion de ce matin, se termine par cette belle pensée, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. » Alors ce chemin de la vie que Christ ouvre pour les racheter, c'est le vrai Jourdain et la vraie mer rouge. C'est un chemin qui pour lui traversait la mort de la croix, les heures de l'expiation. Quelque chose d'extraordinaire de penser que le Seigneur qui a devant lui ses souffrances parle de la gloire. Et il met en évidence devant les chers disciples, pour leur montrer combien il les aime, cette gloire dont il allait être glorifié par Dieu lui-même et qu'il allait faire partager par grâce à ses propres disciples. Et pour lui, nous ne sous-estimons pas ce qu'a été cette heure solennelle. Les souffrances qui devaient être la part de Christ et les gloires qui devaient suivre. C'est tout le thème du message de tous les prophètes de l'Ancien Testament. 1 Pierre 1, c'est le passage connu de chacun. Et pour Christ, la gloire, le chemin de la gloire, c'était la croix. La souffrance introduit la gloire. C'est au centre même de cette œuvre que Dieu glorifie son Fils. Alors, rien ni personne ne peut exprimer avoir un amour comparable. Le Seigneur a aimé l'Assemblée, le Seigneur nous a aimés, le Seigneur aime son Père. raisons pour lesquelles il est mort, pour la gloire de Dieu. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie et que je la reprenne, j'ai reçu ce commandement de mon Père. Et c'est afin que le monde connaisse que moi j'aime le Père. Il a aimé l'assemblée, il nous a aimés, chacun s'est racheté de l'amour dont Paul parle en Galates 2. Le Fils de Dieu m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Alors puisque cette expression suprême de l'amour a été présentée, a été donnée par Christ lui-même devant le monde moral, maintenant, voilà la mesure de l'amour dont nous avons à nous aimer les uns les autres. Pourquoi sommes-nous rendus capables d'aimer? Parce que, évidemment, c'est dans le passage connu de chacun, l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'homme naturel ne peut pas aimer. Il peut y avoir des sentiments d'affection naturelle, des sentiments d'affection, j'oserais dire animal, puisque l'expression a été citée dans une prière ce matin, l'homme naturel. Mais l'homme spirituel aime parce que nous en avons reçu cette capacité de Dieu. Et la capacité qui nous vient de Dieu d'aimer retourne vers Dieu en reconnaissance, attache nos âmes à Christ. Nous nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier, nous rend capables de nous aimer les uns les autres. Alors cette mesure, évidemment, c'est celle-même dont Christ nous a aimés. Nous l'avons dit ce matin dans l'introduction, la loi ne faisait rien d'autre que de comparer l'homme à lui-même. Maintenant, nous changeons les mesures, nous changeons la hiérarchie, le système de coordonnées est changé. S'il est infini, puisque c'est l'amour de Christ pour l'Église, pour chacun de nous.